« Ma chère amie, » dit-il en donnant un grand coup qui mit le feu en déroute, « je vous demande encore une fois pardon d'entrer dans ces détails. Je vous ai servi exactement la rente des fonds que vous m'avez remis entre les mains. Je puis même dire, sans vous blesser, que j'ai regardé seulement cette rente comme votre argent de poche, payant vos dépenses, ne vous demandant jamais votre apport de moitié dans les frais communs du ménage. » Il se tut. René souffrait, le regardait faire un grand trou dans la cendre pour enterrer le bout d'une bûche. Il arrivait à un aveu délicat. « J'ai dû, vous le comprenez, faire produire à votre argent des intérêts considérables. Les capitaux sont entre bonnes mains, soyez tranquille. Quant aux sommes provenant de vos biens de Sologne, elles ont servi en partie au paiement de l'hôtel que nous habitons. Le reste est placé dans une affaire excellente, la Société Générale des Ports du Maroc. Nous n'en sommes pas à compter ensemble, n'est-ce pas? Mais je veux vous prouver que les pauvres maris sont parfois bien méconnus. » Un motif puissant devait le pousser à mentir moins que de coutume. La vérité était que la dot de René n'existait plus depuis longtemps. Elle avait passé dans la caisse de sa carte à l'état de valeur fictive. S'il en servait les intérêts à plus de 200 ou 300%, il n'aurait pu représenter le moindre titre ni retrouver la plus petite espèce solide du capital primitif. Comme il l'avouait à moitié, d'ailleurs, les 500 000 francs des biens de la Sologne avaient servi à donner un premier acompte sur l'hôtel et le mobilier, qui coûtaient ensemble près de 2 millions. Il devait encore 1 million au tapissier et à l'entrepreneur. « Je ne vous réclame rien, » dit enfin René. « Je sais que je suis très endetté vis-à-vis de vous. »« Oh, cher ami !» s'écria-t-il en prenant la main de sa femme, sans abandonner les pincettes. « Quelle vilaine idée vous avez là ! En deux mots, tenez, j'ai été malheureux à la bourse. Toutain Laroche a fait des bêtises, les Mignons et Charrier sont des butors qui me mettent dedans. Et voilà pourquoi je ne puis payer votre mémoire. Vous me pardonnez, n'est-ce pas ? » Il semblait véritablement ému. Il enfonça les pincettes entre les bûches, alluma des fusées d'étincelles. René se rappela l'allure inquiète qu'il avait depuis quelque temps, mais elle ne put descendre dans l'étonnante vérité. Saccard en était arrivé à un tour de force quotidien. Il habitait un hôtel de 2 millions. Il vivait sur le pied d'une dotation de prince et certains matins, il n'avait pas 1 000 francs dans sa caisse. Ses dépenses ne paraissaient pas diminuer. Il vivait sur la dette parmi un peuple de créanciers qui engloutissait au jour le jour les bénéfices scandaleux qu'il réalisait dans certaines affaires. Pendant ce temps, au même moment, des sociétés s'écroulaient sous lui. De nouveaux trous se creusaient, plus profonds, par-dessus lesquels il sautait, ne pouvant les combler. Il marchait ainsi sur un terrain miné, dans une crise continuelle, soldant des notes de 50 000 francs et ne payant pas les gages de son cocher, marchant toujours avec l'aplomb de plus en plus royal, vidant avec plus de rage sur Paris sa caisse vide, d'où le fleuve d'or aux sources légendaires continuait à sortir. La spéculation traversait alors une heure mauvaise. Saccard était un digne enfant de l'hôtel de ville. Il avait eu la rapidité de transformation, la fièvre de jouissance, l'aveuglement de dépenses qui secouait Paris. À ce moment, comme la ville, il se trouvait en face d'un formidable déficit qu'il s'agissait de combler secrètement. Car il ne voulait pas entendre parler de sagesse, d'économie, d'existence calme et bourgeoise. Il préférait garder le luxe inutile et la misère réelle de ses voies nouvelles, d'où il avait tiré sa colossale fortune de chaque matin, mangée chaque soir. D'aventure en aventure, il n'avait plus que la façade dorée d'un capital absent. À cette heure de folie chaude, Paris lui-même n'engageait pas son avenir avec plus d'emportement et n'allait pas plus droit à toutes les sottises et à toutes les duperies financières. La liquidation commençait d'être terrible. Les plus belles spéculations se gâtaient entre les mains de Saccard. Il venait d'essuyer, comme il le disait, des pertes considérables à la bourse. M. Toutain-Laroche avait failli faire sombrer le crédit viticole dans un jeu à la hausse qui s'était brusquement tourné contre lui. Heureusement que le gouvernement, intervenant sous le manteau, avait remis debout la fameuse machine du prêt hypothécaire au cultivateur. Saccard, ébranlé par cette double secousse, très maltraité par son frère le ministre, pour le risque que venait de courir la solidité des bons de délégation de la ville, compromise avec celle du crédit viticole, se trouvait moins heureux encore dans sa spéculation sur les immeubles. Les Mignon et Charrier avaient complètement rompu avec lui. S'il les accusait, c'était par une rage sourde de s'être trompé en faisant bâtir sur sa part de terrain, tandis qu'eux vendaient prudemment la leur. Pendant qu'il réalisait une fortune, lui restait avec des maisons sur les bras, dont il ne se débarrassait souvent qu'à perte. Entre autres, il vendit 300 000 francs rue de Marignan, un hôtel sur lequel il en devait encore 380 000. Il avait bien inventé un tour de sa façon, qui consistait à exiger 10 000 francs d'un appartement valant 8 000 francs au plus. Le locataire, effrayé, ne signait un bail que lorsque le propriétaire consentait à lui faire cadeau des deux premières années de loyer. L'appartement se trouvait de cette façon réduit à son prix réel, mais le bail portait le chiffre de 10 000 francs par an. Et quand Saccard trouvait un acquéreur et capitalisait les revenus de l'immeuble, il arrivait à une véritable fantasmagorie de calcul. Il ne put appliquer cette duperie en grand. Ses maisons ne se louaient pas, il les avait bâties trop tôt. Les déblais au milieu desquels elles se trouvaient perdues, en pleine boue, l'hiver, les isolaient, leur faisaient un tort considérable. L'affaire qui le toucha le plus fut la grosse rouerie des sieurs Mignon et Charrier, qui lui rachetèrent l'hôtel dont il avait dû abandonner la construction au boulevard Malesherbes. Les entrepreneurs étaient enfin mordus par l'envie d'habiter leur boulevard. Comme ils avaient vendu leur part de terrain de plus-value et qu'ils flairaient la gêne de leur ancien associé, ils lui offrirent de le débarrasser de l'enclos au milieu duquel l'hôtel s'élevait jusqu'au plancher du premier étage, dont l'armature de fer était en partie posée. Seulement, ils traitèrent de plâtras inutiles ces solides fondations en pierre de taille, disant qu'ils auraient préféré le sol nu pour y faire construire à leur guise. Saccard dut vendre sans tenir compte des 100 et quelques 1000 francs qu'il avait déjà dépensés. Et ce qui l'exaspéra davantage encore, ce fut que jamais les entrepreneurs ne voulurent reprendre le terrain à 250 francs le mètre, chiffre fixé lors du partage. Ils lui rabattirent 25 francs par mètre, comme ces marchandes à la toilette qui ne donnent plus que 4 francs d'un objet qu'elles ont vendu 5 francs la veille. 2 jours après, Saccard eut la douleur de voir une armée de maçons envahir l'enclos de planches et continuer à bâtir sur les plâtras inutiles. Il jouait donc d'autant mieux la gêne devant sa femme que ses affaires s'embrouillaient davantage. Il n'était pas homme à se confesser par amour de la vérité. « Mais, monsieur, dit René d'un air de doute, si vous vous trouvez embarrassé, pourquoi m'avoir acheté cette aigrette et cette rivière qui vous ont coûté, je crois, 65 000 francs? Je n'ai que faire de ces bijoux. Je vais être obligé de vous demander la permission de m'en défaire pour donner un acompte à Worms. » « Gardez-vous-en bien » s'écria-t-il avec inquiétude. « Si l'on ne vous voyait pas ces bijoux demain au bal du ministère, on ferait des cancans sur ma situation. » Il était bonhomme ce matin-là. Il finit par sourire et par murmurer en clignant des yeux. « ma chère amie, nous autres spéculateurs, nous avons nos roueries. Conservez, je vous prie, votre aigrette et votre rivière pour l'amour de moi. » Il ne pouvait conter l'histoire, qui était tout à fait jolie, mais un peu risquée. Ce fut à la fin d'un souper que Saccard et Laure d'Origny conclurent un traité d'alliance. Laure était criblé de dettes et ne songeait plus qu'à trouver un bon jeune homme qui voulût bien l'enlever et la conduire à Londres. Saccard, de son côté, sentait le sol s'écrouler sous lui. Son imagination aux abois cherchait un expédient qui le montrât au public vautré sur un lit d'or et de billets de banque. La fille et le spéculateur, dans la demi-ivresse du dessert, s'entendirent. Il trouva l'idée de cette vente de diamants qui fit courir tout Paris et dans laquelle il acheta, à grand tapage, des bijoux pour sa femme. Puis, avec le produit de la vente, 400 000 francs environ, il parvint à satisfaire les créanciers de l'or, auxquels elle devait à peu près le double. Il est même à croire qu'il retira du jeu une partie de ses 65 000 francs. Quand on le vit liquider la situation de la d'Origny, il passa pour son amant. On crut qu'il payait la totalité de ses dettes, qu'il faisait des folies pour elle. Toutes les mains se tendirent vers lui. Le crédit revint, formidable. Et on le plaisantait à la bourse sur sa passion avec des sourires, des allusions qui le ravissaient. Pendant ce temps, Laure d'Origny, mise en vue par ce vacarme et chez laquelle il ne passa seulement pas une nuit, feignait de le tromper avec 8 ou 10 imbéciles alléchés par l'idée de la voler à un homme si colossalement riche. En un mois, elle eut 2 mobiliers et plus de diamants qu'elle n'en avait vendus. Saccard avait pris l'habitude d'aller fumer un cigare chez elle l'après-midi au sortir de la bourse. Souvent, il apercevait des coins de redingote qui fuyaient, effarouchés, entre les portes. Quand ils étaient seuls, ils ne pouvaient se regarder sans rire. Il la baisait au front comme une fille perverse dont la coquinerie l'enthousiasmait. Il ne lui donnait pas un sou, et même une fois, elle lui prêta de l'argent pour une dette de jeu. René voulut insister, parla d'engager au moins les bijoux. Mais son mari lui fit entendre que cela n'était pas possible, que tout Paris s'attendait à aller lui voir le lendemain. Alors, la jeune femme, que le mémoire de Worms inquiétait beaucoup, chercha un autre expédient. « Mais, s'écria-t-elle tout à coup, mon affaire de Charonne marche bien, n'est-ce pas? Vous me disiez encore l'autre jour que les bénéfices étaient superbes. Peut-être que l'Arsenal m'avancerait les 136 000 francs. » Saccard, depuis un instant, oubliait les pincettes entre ses jambes. Il les reprit vivement, se pencha, disparut presque dans la cheminée, où la jeune femme entendit sourdement sa voix qui murmurait « Oui, oui, l'Arsenal pourrait peut-être. » Elle arrivait enfin, d'elle-même, au point où il l'amenait doucement depuis le commencement de la conversation. Il y avait 2 ans déjà qu'il préparait son coup de génie du côté de Charonne. Jamais sa femme ne voulut aliéner les biens de la tante Élisabeth. Elle avait juré à cette dernière de les garder intacts pour les léguer à son enfant, si elle devenait mère. Devant cet entêtement, l'imagination du spéculateur travailla et finit par bâtir tout un poème. C'était une œuvre de scélératesse exquise, une duperie colossale, dont la ville, l'État, sa femme et jusqu'à l'Arsenal devaient être les victimes. Il ne parla plus de vendre les terrains. Seulement, il gémit chaque jour sur la sottise qu'il y avait à les laisser improductifs, à se contenter d'un revenu de 2%. René, toujours pressé d'argent, finit par accepter l'idée d'une spéculation quelconque. Il basa son opération sur la certitude d'une expropriation prochaine pour le percement du boulevard du Prince Eugène, dont le tracé n'était pas encore nettement arrêté. et ce fut alors qu'il amena son ancien complice Larsonneau, comme un associé qui conclut avec sa femme un traité sur les bases suivantes. Elle apportait les terrains, représentant une valeur de 500 000 francs. De son côté, Larsonneau s'engageait à bâtir sur ces terrains, pour une somme égale, une salle de café-concert, accompagnée d'un grand jardin, où l'on établirait des jeux de toutes sortes, des balançoires, des jeux de quilles, des jeux de boules, etc. Les bénéfices devaient naturellement être partagés, de même que les pertes seraient subies par moitié. Dans le cas où l'un des deux associés voudrait se retirer, il le pourrait, en exigeant sa part, selon l'estimation qui interviendrait. René parut surprise de ce gros chiffre de 500 000 francs, lorsque les terrains en valaient au plus 300 000. Mais il lui fit comprendre que c'était une façon habile de lier plus tard les mains de Larsonneau, dont les constructions n'atteindraient jamais une telle somme. Larsonneau était devenu un viveur élégant, bien ganté, avec du linge éblouissant et des cravates étonnantes. Il avait, pour faire ses courses, un tilbury fin, comme une œuvre d'horlogerie, très haut de siège, et qu'il conduisait lui-même. Ses bureaux de la rue de Rivoli étaient une enfilade de pièces somptueuses, où l'on ne voyait pas le moindre carton, la moindre paperasse. Ses employés écrivaient sur des tables de poirier noircies, marquetées, ornées de cuivre ciselé. Ils prenaient le titre d'agent d'expropriation, un métier nouveau que les travaux de Paris avaient créé. Ses attaches avec l'hôtel de ville le renseignaient à l'avance sur le percement des voies nouvelles. Quand il était parvenu à se faire communiquer, par un agent voyé, le tracé d'un boulevard, il allait offrir ses services aux propriétaires menacés. Et il faisait valoir ses petits moyens pour grossir l'indemnité, en agissant avant le décret d'utilité publique. Dès qu'un propriétaire acceptait ses offres, il prenait tous les frais à sa charge, dressait un plan de la propriété, écrivait un mémoire, suivait l'affaire devant le tribunal, payait un avocat, moyennant un tant pour cent sur la différence entre l'offre de la ville et l'indemnité accordée par le jury. Mais à cette besogne, à peu près avouable, il en joignait plusieurs autres. Il prêtait surtout à usure. Ce n'était plus l'usurier de la vieille école, déguenillé, malpropre, aux yeux blancs et muets comme des pièces de 100 sous, aux lèvres pâles et serrées comme les cordons d'une bourse. Lui souriait, avait des œillades charmantes, se faisait habiller chez du Sautoit, allait déjeuner chez Brébant avec sa victime, qu'il appelait « mon bon », en lui offrant des havanes au dessert. Au fond, dans ses gilets qui le pinçaient à la taille, Larsonneau était un terrible monsieur qui aurait poursuivi le paiement d'un billet jusqu'au suicide du signataire, sans rien perdre de son amabilité. Saccard eut volontiers cherché un autre associé, mais il avait toujours des inquiétudes au sujet de l'inventaire faux que Larsonneau gardait précieusement. Il préféra le mettre dans l'affaire, comptant profiter de quelques circonstances pour rentrer en possession de cette pièce compromettante. Larsonneau bâtit le café-concert, une construction en planches et en plâtras, surmontée de clochetons de fer blanc, qu'il fit peinturlurer en jaune et en rouge. Le jardin et les jeux eurent du succès dans le quartier populeux de Charonne. Au bout de 2 ans, la spéculation paraissait prospère, bien que les bénéfices fussent réellement très faibles. Saccard, jusqu'alors, n'avait parlé qu'avec enthousiasme à sa femme de l'avenir d'une si belle idée. René, voyant que son mari ne se décidait pas à sortir de la cheminée, où sa voix s'étouffait de plus en plus, « J'irai voir Larsonneau aujourd'hui, » dit-elle, « c'est ma seule ressource. » Alors il abandonna la bûche avec laquelle il luttait. « La course est faite, cher ami, » répondit-il en souriant. « Est-ce que je ne préviens pas tous vos désirs? J'ai vu Larsonneau hier soir. » « Et il vous a promis les 136 000 francs ? » demanda-t-elle avec anxiété. Il faisait, entre les deux bûches qui flambaient, une petite montagne de braise, ramassant délicatement du bout des pincettes les plus minces fragments de charbon, regardant d'un air satisfait s'élever cette butte qu'il construisait avec un art infini. « Oh, comme vous y allez !» murmura-t-il. « C'est une grosse somme que 136 000 francs. L'Arsenault est un bon garçon, mais sa caisse est encore modeste. Il est tout prêt à vous obliger. » Il s'attardait, clignant des yeux, rebâtissant un coin de la butte qui venait de s'écrouler. Ce jeu commençait à brouiller les idées de la jeune femme. Elle suivait, malgré elle, le travail de son mari, dont la maladresse augmentait. Elle était tentée de lui donner des conseils. Oubliant Worms, le mémoire, le manque d'argent, elle finit par dire « Mais placez donc ce gros morceau là-dessous, les autres tiendront !» Son mari lui obéit docilement, en ajoutant « Il ne peut trouver que 50 000 francs. C'est toujours un joli à-compte. Seulement, il ne veut pas mêler cette affaire avec celle de Charonne. Il n'est qu'intermédiaire, vous comprenez, cher ami. La personne qui prête l'argent demande des intérêts énormes. Elle voudrait un billet de 80 000 francs à 6 mois de date. » Et, ayant couronné la butte par un morceau de braise pointue, il croisa les mains sur les pincettes en regardant fixement sa femme. « 80 000 francs !» s'écria-t-elle. « Mais c'est un vol! Est-ce que vous me conseillez une pareille folie ?»« Non, » dit-il nettement. « Mais si vous avez absolument besoin d'argent, je ne vous la défends pas. » Il se leva, comme pour se retirer. René, dans une indécision cruelle, regarda son mari et le mémoire qu'il laissait sur la cheminée. Elle finit par prendre sa pauvre tête entre ses mains en murmurant « Oh, ces affaires! J'ai la tête brisée ce matin. Allez, je vais signer ce billet de 80 000 francs. Si je ne le faisais pas, ça me rendrait tout à fait malade. Je me connais. Je passerai la journée dans un combat affreux. J'aime mieux faire les bêtises tout de suite. Ça me soulage. » Et elle parla de sonner pour qu'on allât lui chercher du papier timbré. Mais il voulut lui rendre ce service lui-même. Il avait sans doute le papier timbré dans sa poche, car son absence dura à peine 2 minutes. Pendant qu'elle écrivait sur une petite table qu'il avait poussée au coin du feu, il l'examinait avec des yeux où s'allumait un désir étonné. Il faisait très chaud dans la chambre, pleine encore du lever de la jeune femme, des senteurs de sa première toilette. Tout en causant, elle avait laissé glisser les pans du peignoir dans lequel elle s'était pelotonnée, et le regard de son mari, debout devant elle, glissait sur sa tête inclinée, parmi l'or de ses cheveux, très loin, jusqu'aux blancheurs de son cou et de sa poitrine. Il souriait d'un air singulier. Ce feu ardent qui lui avait brûlé la face, cette chambre close où l'air alourdi gardait une odeur d'amour, ses cheveux jaunes et cette peau blanche qui le tentait avec une sorte de dédain conjugal, le rendaient rêveur, élargissaient le drame dont il venait de jouir une scène, faisaient naître quelques secrets et voluptueux calculs dans sa chair brutale d'agioteur. Quand sa femme lui tendit le billet, en le priant de terminer l'affaire, il le prit, la regardant toujours. « Vous êtes belle à ravir » murmura-t-il. Et, comme elle se penchait pour repousser la table, il la baisa rudement sur le cou. Elle jeta un petit cri, puis elle se leva, frémissante, tâchant de rire, songeant invinciblement au baiser de l'autre la veille. Mais il eut regret de ce baiser de cocher. Il la quitta, en lui serrant amicalement la main, et en lui promettant qu'elle aurait les 50 000 francs le soir même. René sommeilla toute la journée devant le feu. Aux heures de crise, elle avait des langueurs de créole. Alors, toute sa turbulence devenait paresseuse, frileuse, endormie. Elle grelottait, il lui fallait des brasiers ardents, une chaleur suffocante qui lui mettait au front de petites gouttes de sueur. et qu'il assoupissait. Dans cet air brûlant, dans ce bain de flammes, elle ne souffrait presque plus. Sa douleur devenait comme un songe léger, un vague oppressement dont l'indécision même finissait par être voluptueuse. Ce fut ainsi qu'elle berça jusqu'au soir ses remords de la veille, dans la clarté rouge du foyer, en face d'un terrible feu qui faisait craquer les meubles autour d'elle, et lui ôtait par instant la conscience de son être. Elle put songer à Maxime comme à une jouissance enflammée dont les rayons la brûlaient. Elle eut un cauchemar d'étranges amours au milieu des bûchers sur des lits chauffés à blanc. Céleste allait et venait dans la chambre avec sa figure calme de servante au sang glacé. Elle avait l'ordre de ne laisser entrer personne. Elle congédia même les inséparables, Adeline d'Espanay et Suzanne Hafner, de retour d'un déjeuner qu'elles venaient de faire ensemble dans un pavillon loué par elle à Saint-Germain. Cependant, vers le soir, Céleste étant venue dire à sa maîtresse que Madame Sidonie, la sœur de monsieur, voulait lui parler, elle reçut l'ordre de l'introduire. Madame Sidonie ne venait généralement qu'à la nuit tombée. Son frère avait pourtant obtenu qu'elle mît des robes de soie, mais on ne savait comment. La soie qu'elle portait avait beau sortir du magasin, elle ne paraissait jamais neuve. Elle se fripait, perdait son luisant, ressemblait à une loque. Elle avait aussi consenti à ne pas apporter son panier chez les Saccard. En revanche, ses poches débordaient de paperasse. Renée, dont elle ne pouvait faire une cliente raisonnable, résignée aux nécessités de la vie, l'intéressait. Elle la visitait régulièrement, avec des sourires discrets de médecin qui ne veut pas effrayer un malade en lui apprenant le nom de son mal. Elle s'apitoyait sur ses petites misères, comme sur des bobos qu'elle guérirait immédiatement si la jeune femme voulait. Cette dernière, qui était dans une de ces heures où l'on a besoin d'être plein, la faisait uniquement entrer pour lui dire qu'elle avait des douleurs de tête intolérables. « Eh, ma toute belle !» murmura Madame Sidonie en se glissant dans l'ombre de la pièce. « Mais vous étouffez ici! Toujours vos douleurs névralgiques, n'est-ce pas? C'est le chagrin, vous prenez la vie trop à cœur. » Oui, j'ai bien des soucis, répondit languissamment Renée. La nuit tombait. Elle n'avait pas voulu que Céleste allumât une lampe. Le brasier seul jetait une grande lueur rouge qui l'éclairait en plein, allongée dans son peignoir blanc dont les dentelles devenaient roses. Au bord de l'ombre, on ne voyait qu'un bout de la robe noire de Madame Sidonie et ses deux mains croisées, couvertes de gants de coton gris. Sa voix tendre sortait des ténèbres. « Encore des peines d'argent, » dit-elle comme si elle avait dit, « des peines de cœur, » d'un ton plein de douceur et de pitié. Renée abaissa les paupières, fit un geste d'aveu. « Ah, si mes frères m'écoutaient, nous serions tous riches. Mais ils lèvent les épaules quand je leur parle de cette dette de 3 milliards. Vous savez, j'ai bon espoir pourtant. Il y a 10 ans que je veux faire un voyage en Angleterre. J'ai si peu de temps à moi. Enfin, je me suis décidée à écrire à Londres et j'attends la réponse. » Et comme la jeune femme souriait, « Je sais, vous êtes une incrédule, vous aussi. » « Cependant, vous seriez bien contente si je vous faisais cadeau un de ces jours d'un joli petit million. Allez, l'histoire est toute simple. C'est un banquier de Paris qui prêta l'argent au fils du roi d'Angleterre. Et comme le banquier mourut sans héritier naturel, l'État peut aujourd'hui exiger le remboursement de la dette avec les intérêts composés. J'ai fait le calcul. Ça monte à 2 943 210 000 francs. « N'ayez pas peur, ça viendra, ça viendra. » « En attendant, » dit la jeune femme avec une pointe d'ironie, « vous devriez bien me faire prêter 100 000 francs. Je pourrais payer mon tailleur qui me tourmente beaucoup. » « 100 000 francs se trouvent, » répondit tranquillement Madame Sidonie. Il ne s'agit que d'y mettre le prix. » Le brasier luisait. Renée, plus languissante, allongeait ses jambes, montrait le bout de ses pantoufles au bord de son peignoir. La courtière reprit sa voix apitoyée. « Pauvre chère, vous n'êtes vraiment pas raisonnable. Je connais beaucoup de femmes, mais je n'en ai jamais vu une aussi peu soucieuse de sa santé. Tenez, cette petite Michelin, c'est elle qui sait s'arranger. Je songe à vous, malgré moi, quand je la vois heureuse et bien portante. Savez-vous que monsieur de Saffré en est amoureux fou et qu'il lui a déjà donné pour près de 10 000 francs de cadeaux? Je crois que son rêve est d'avoir une maison de campagne. » Elle s'animait. Elle cherchait sa poche. « J'ai là encore une lettre d'une pauvre jeune femme. Si nous avions de la lumière, je vous la ferais lire. Imaginez-vous que son mari ne s'occupe pas d'elle. Elle avait signé des billets. Elle a été obligée d'emprunter à un monsieur que je connais. C'est moi qui ai retiré les billets des griffes des huissiers. Et ça n'a pas été sans peine. Ces pauvres enfants, croyez-vous qu'ils font le mal ? Je les reçois chez moi comme s'ils étaient mon fils et ma fille. » « Vous connaissez un prêteur ? » demanda négligemment René. « J'en connais 10. Vous êtes trop bonne. Entre femmes, n'est-ce pas ? On peut se dire bien des choses. Et ce n'est pas parce que votre mari est mon frère que je l'excuserai de courir les gueuses et de laisser se morfondre au coin du feu un amour de femme comme vous. » Cette Lord Aurigny lui coûte les yeux de la tête. Ça ne m'étonnerait pas qu'il vous eût refusé de l'argent. Il vous en a refusé, n'est-ce pas ? Oh, le malheureux ! » René écoutait complaisamment cette voix molle qui sortait de l'ombre, comme l'écho encore vague de ses propres songeries. Les paupières demi-closes, presque couchées dans son fauteuil, elle ne savait plus que Madame Sidonie était là. Elle croyait rêver que de mauvaises pensées lui venaient et tentait avec une grande douceur. La courtière parla longtemps, pareille à une eau tiède et monotone. « C'est Madame de Lowerhans qui a gâté votre existence. Vous n'avez jamais voulu me croire. Ah, vous n'en seriez pas à pleurer au coin de votre cheminée si vous ne vous étiez pas défiée de moi. Et je vous aime comme mes yeux, ma toute belle. » Vous avez un pied ravissant. Vous allez vous moquer de moi, mais je veux vous conter mes folies. Quand il y a 3 jours que je ne vous ai vu, il faut absolument que je vienne pour vous admirer. Oui, il me manque quelque chose. J'ai besoin de me rassasier de vos beaux cheveux, de votre visage si blanc et si délicat, de votre taille mince. Vrai, je n'ai jamais vu de taille pareille. René finit par sourire. Ses amants n'avaient pas eux-mêmes cette chaleur, cette extase recueillie en lui parlant de sa beauté. Madame Sidonie vit ce sourire. « Allons, c'est convenu, » dit-elle en se levant vivement. « Je bavarde, et j'oublie que je vous casse la tête. Vous viendrez demain, n'est-ce pas ? Nous causerons argent, nous chercherons un prêteur. Entendez-vous, je veux que vous soyez heureuse. » La jeune femme, sans bouger, pâmée par la chaleur, répondit après un silence comme s'il lui avait fallu un travail laborieux pour comprendre ce qu'on disait autour d'elle. « Oui, j'irai, c'est convenu, et nous causerons. Mais pas demain. Worm se contentera d'un acompte. Quand il me tourmentera encore, nous verrons. Ne me parlez plus de tout cela. J'ai la tête brisée par les affaires. » Madame Sidonie parut très contrariée. Elle allait se rasseoir, reprendre son monologue caressant. Mais l'attitude lasse de René lui fit remettre son attaque à plus tard. Elle tira de sa poche une poignée de paperasse, où elle chercha et finit par trouver un objet renfermé dans une sorte de boîte rose. « J'étais venue pour vous recommander un nouveau savon, » dit-elle en reprenant sa voix de courtière. « Je m'intéresse beaucoup à l'inventeur, qui est un charmant jeune homme. C'est un savon très doux, très bon pour la peau. Vous l'essayerez, n'est-ce pas ? Et vous en parlerez à vos amis. Je le laisse là, sur votre cheminée. » Elle était à la porte, lorsqu'elle revint encore. Et, droite dans la lueur rose du brasier, avec sa face de cire, elle se mit à faire l'éloge d'une ceinture élastique, une invention destinée à remplacer les corsets. « Ça vous donne une taille absolument ronde, une vraie taille de guêpe, » disait-elle. « J'ai sauvé ça d'une faillite. Quand vous viendrez, vous essaierez les spécimens, si vous voyez. J'ai dû courir les avouer pendant une semaine. Le dossier est dans ma poche, et je vais de ce pas chez mon huissier pour lever une dernière opposition. À bientôt, ma mignonne. Vous savez que je vous attends et que je veux sécher vos beaux yeux. » Elle glissa. Elle disparut. René ne l'entendit même pas fermer la porte. Elle resta là, devant le feu qui mourait, continuant le rêve de la journée, la tête pleine de chiffres d'encens, entendant au loin les voix de Saccard et de Madame Sidonie dialoguer, lui offrir des sommes considérables, du ton dont un commissaire-priseur met un mobilier aux enchères. Elle sentait sur son cou le baiser brutal de son mari, et quand elle se retournait, c'était la courtière qu'elle trouvait à ses pieds, avec sa robe noire, son visage mou, lui tenant des discours passionnés, lui vantant ses perfections, implorant un rendez-vous d'amour avec l'attitude d'un amant à bout de résignation. Cela la faisait sourire. La chaleur dans la pièce devenait de plus en plus étouffante, et la stupeur de la jeune femme, les rêves bizarres qu'elle faisait, n'étaient qu'un sommeil léger, un sommeil artificiel, au fond duquel elle revoyait toujours le petit cabinet du boulevard, le large divan où elle était tombée à genoux. Elle ne souffrait plus du tout. Quand elle ouvrait les paupières, Maxime passait dans le brasier rose. Le lendemain, au bal du ministère, la belle Madame Saccard fut merveilleuse. Worms avait accepté l'acompte de 50 000 francs. Elle sortait de cet embarras d'argent avec des rires de convalescente. Quand elle traversa les salons, dans sa grande robe de faille rose à longue traîne Louis XIV, encadrée de hautes dentelles blanches, il y eut un murmure. Les hommes se bousculèrent pour la voir. Et les intimes s'inclinaient avec un discret sourire d'intelligence, rendant hommage à ses belles épaules, si connue du tout Paris officiel et qui étaient les fermes colonnes de l'Empire. Elle s'était décolletée avec un tel mépris des regards, elle marchait si calme et si tendre dans sa nudité, que cela n'était presque plus indécent. Eugène Rougon, le grand homme politique, qui sentait cette gorge nue plus éloquente encore que sa parole à la Chambre, plus douce et plus persuasive pour faire goûter les charmes du règne et convaincre les sceptiques, alla complimenter sa belle-sœur sur son heureux coup d'audace d'avoir échancré son corsage de 2 doigts de plus. Presque tout le corps législatif était là. Et, à la façon dont les députés regardaient la jeune femme, le ministre se promettait un beau succès le lendemain dans la question délicate des emprunts de la ville de Paris. On ne pouvait voter contre un pouvoir qui faisait pousser, dans le terreau des millions, une fleur comme cette Renée, une si étrange fleur de volupté, à la chair de soie, aux nudités de statue, vivante jouissance qui laissait derrière elle une odeur de plaisir tiède. Mais ce qui fit chuchoter le bal entier, ce fut la rivière et les grettes. Les hommes reconnaissaient les bijoux. Les femmes se les désignaient du regard, furtivement. On ne parla que de ça toute la soirée. Et les salons allongeaient leur enfilade dans la lumière blanche des lustres, emplis d'une cohue resplendissante, comme un fouillis d'astres tombé dans un coin trop étroit. Vers 1 heure, Saccard disparut. Il avait goûté le succès de sa femme en homme dont le coup de théâtre réussit. Il venait encore de consolider son crédit. Une affaire l'appelait chez Lord Origny. Il se sauva en priant Maxime de reconduire René à l'hôtel après le bal. Maxime passa la soirée, sagement, à côté de Louise de Mareuil, très occupés tous les deux à dire un mal affreux des femmes qui allaient et venaient. Et quand ils avaient trouvé quelque folie plus grosse que les autres, ils étouffaient leur rire dans leur mouchoir. Il fallut que René vînt demander son bras au jeune homme pour sortir des salons. Dans la voiture, elle fut d'une gaieté nerveuse. Elle était encore toute vibrante de l'ivresse de lumière, de parfums et de bruits qu'elle venait de traverser. Elle semblait d'ailleurs avoir oublié leur bêtise du boulevard, comme disait Maxime. Elle lui demanda seulement, d'un ton de voix singulier, « Elle est donc très drôle, cette petite bossue de Louise ?»« Oh, très drôle !» répondit le jeune homme en riant encore. « Tu as vu la duchesse de Sternik avec un oiseau jaune dans les cheveux, n'est-ce pas ? Est-ce que Louise ne prétend pas que c'est un oiseau mécanique qui bat des ailes et qui crie « coucou, coucou » au pauvre duc toutes les heures ?» René trouva très comique cette plaisanterie de pensionnaire émancipé. Quand ils furent arrivés, comme Maxime allait prendre congé d'elle, elle lui dit « Tu ne montes pas ? Céleste m'a sans doute préparé une collation. » Il monta, avec son abandon ordinaire. En haut, il n'y avait pas de collation, et Céleste était couchée. Il fallut que René alluma les bougies d'un petit candélabre à trois branches. Sa main tremblait un peu. « Cette sotte !» disait-elle en parlant de sa femme de chambre. « Elle aura mal compris mes ordres. Jamais je ne vais pouvoir me déshabiller toute seule. » Elle passa dans son cabinet de toilette. Maxime la suivit pour lui raconter un nouveau mot de Louise qui lui revenait à la mémoire. Tranquille, comme s'il se fût attardé chez un ami, cherchant déjà son porte-cigare pour allumer un Havane. Mais là, lorsqu'elle eut posé le candélabre, elle se tourna et tomba dans les bras du jeune homme, muette et inquiétante, collant sa bouche sur sa bouche. L'appartement particulier de René était un nid de soie et de dentelle, une merveille de luxe coquet. Un boudoir très petit précédait la chambre à coucher. Les deux pièces n'en faisaient qu'une. Ou du moins, le boudoir n'était guère que le seuil de la chambre. Une grande alcôve, garnie de chaises longues, sans porte pleine, fermée par une double portière. Les murs, dans l'une et l'autre pièce, se trouvaient également tendus d'une étoffe de soie mate gris de lin, brochée d'énormes bouquets de roses, de lilas blancs et de boutons d'or. Les rideaux et portières étaient en guipure de Venise, posés sur une doublure de soie, faite de bandes alternativement grises et roses. Dans la chambre à coucher, la cheminée en marbre blanc, un véritable joyau, étalait, comme une corbeille de fleurs, ses incrustations de lapis et de mosaïques précieuses, reproduisant les roses, les lilas blancs et les boutons d'or de la tenture. Un grand lit, gris et rose, dont on ne voyait pas le bois, recouvert d'étoffes et capitonné, et dont le chevet s'appuyait au mur, emplissait toute une moitié de la chambre avec son flot de draperies, ses guipures et sa soie brochée de bouquets, tombant du plafond jusqu'au tapis. On aurait dit une toilette de femme, arrondie, découpée, accompagnée de poufs, de nœuds, de volants, et ce large rideau qui se gonflait, pareil à une jupe, faisait rêver à quelque grande amoureuse penchée, se pâmant, près de choir sur les oreillers. Sous les rideaux, c'était un sanctuaire, des batistes plissées à petits plis, une neige de dentelle, toutes sortes de choses délicates et transparentes qui se noyaient dans un demi-jour religieux. À côté du lit, de ce monument dont l'ampleur dévote rappelait une chapelle ornée pour quelque fête, les autres meubles disparaissaient. Des sièges bas, une psyché de 2 mètres, des meubles pourvus d'une infinité de tiroirs. À terre, le tapis d'un gris bleuâtre était semé de roses pâles et feuillées. Et aux deux côtés du lit, il y avait 2 grandes peaux d'ours noirs, garnies de velours rose, aux ongles d'argent, et dont les têtes, tournées vers la fenêtre, regardaient fixement le ciel vide de leurs yeux de verre. Cette chambre avait une harmonie douce, un silence étouffé. Aucune note trop aiguë, reflet de métal, dorure claire, ne chantait dans la phrase rêveuse du rose et du gris. La garniture de la cheminée elle-même, le cadre de la glace, la pendule, les petits candélabres, étaient faits de pièces de vieux Sèvres, laissant à peine voir le cuivre doré des montures. Une merveille, cette garniture, la pendule surtout, avec sa ronde d'amour joufflue, qui descendait, se penchait autour du cadran, comme une bande de gamins tout nus se moquant de la marche rapide des heures. Ce luxe adouci, ces couleurs et ces objets que le goût de René avait voulu tendres et souriants, mettaient là un crépuscule, un jour d'alcôve dont on a tiré les rideaux. Il semblait que le lit se continuât, que la pièce entière fût un lit immense, avec ses tapis, ses peaux d'ours, ses sièges capitonnés, ses tentures matelassées, qui continuaient la mollesse du sol le long des murs jusqu'au plafond. Et, comme dans un lit, la jeune femme laissait là, sur toutes ces choses, l'empreinte, la tiédeur, le parfum de son corps. Quand on écartait la double portière du boudoir, il semblait qu'on soulevât une courte pointe de soie, qu'on entrât dans quelque grande couche encore chaude et moite, où l'on retrouvait, sur les toiles fines, les formes adorables, le sommeil et les rêves d'une Parisienne de 30 ans. Une pièce voisine, la garde-robe, grande chambre tendue de vieilles perses, était simplement entourée de hautes armoires en bois de rose, où se trouvait pendue l'armée des robes. Céleste, très méthodique, rangeait les robes par ordre d'ancienneté, les étiquetait, mettait de l'arithmétique au milieu des caprices jaunes ou bleus de sa maîtresse, tenait la garde-robe dans un recueillement de sacristie et une propreté de grande écurie. Il n'y avait pas un meuble et pas un chiffon ne traînait. Les panneaux des armoires luisaient, froids et nets, comme les panneaux vernis d'un coupé. Mais la merveille de l'appartement, la pièce dont parlait tout Paris, c'était le cabinet de toilette. On disait « le cabinet de toilette de la belle Madame Saccard », comme on dit « la galerie des glaces à Versailles ». Ce cabinet se trouvait dans une des tourelles de l'hôtel, juste au-dessus du petit salon Bouton d'Or. On songeait, en y entrant, à une large tente ronde, une tente de féerie, dressée en plein rêve par quelque guerrière amoureuse. Au centre du plafond, une couronne d'argent ciselé retenait les pans de la tente qui venait, en s'arrondissant, s'attacher au mur, d'où il tombait droit jusqu'au plancher. Ces pans, cette tenture riche, était faite d'un dessous de soie rose recouvert d'une mousseline très claire, plissée à grands plis de distance en distance. Une applique de guipure séparait les plis, et des baguettes d'argent guillochées descendaient de la couronne, filaient le long de la tenture, aux deux bords de chaque applique. Le gris rose de la chambre à coucher s'éclairait ici, devenait un blanc rose, une chair nue. Et sous ce berceau de dentelle, sous ces rideaux qui ne laissaient voir du plafond, par le vide étroit de la couronne, qu'un trou bleuâtre où Chapelain avait peint un amour rieur, regardant et apprêtant sa flèche, on se serait cru au fond d'un drageoir, dans quelque précieuse boîte à bijoux, grandie, non plus faite pour l'éclat d'un diamant, mais pour la nudité d'une femme. Le tapis, d'une blancheur de neige, s'étalait sans le moindre semis de fleurs. Une armoire à glace, dont les deux panneaux étaient incrustés d'argent, une chaise longue, deux poufs, des tabourets de satin blanc, une grande table de toilette à plaques de marbre rose et dont les pieds disparaissaient sous des volants de mousseline et de guipure. Meublait la pièce. Les cristaux de la table de toilette les verres, les vases, la cuvette étaient en vieux bohème veiné de rose et de blanc. Et il y avait encore une autre table, incrustée d'argent comme l'armoire à glace, où se trouvaient rangés l'outillage, les engins de toilette, trousses bizarres, qui étalaient un nombre considérable de petits instruments dont l'usage échappait. Les grattes d'eau, les poussoirs, les limes de toutes les grandeurs et de toutes les formes, les ciseaux droits et recourbés, toutes les variétés des pinces et des épingles. Chacun de ces objets, en argent et ivoire, était marqué au chiffre de René. Mais le cabinet était un coin délicieux, et ce coin-là surtout le rendait célèbre. En face de la fenêtre, les pans de la tente s'ouvraient et découpaient, au fond d'une sorte d'alcôve longue et peu profonde, une baignoire, une vasque de marbre rose enfoncée dans le plancher et dont les bords cannelés, comme ceux d'une grande coquille, arrivaient au ras du tapis. On descendait dans la baignoire par des marches de marbre. Au-dessus des robinets d'argent, au col de cygne, une glace de Venise, découpée, sans cadre, avec des dessins dépolis dans le cristal, occupait le fond de l'alcôve. Chaque matin, René prenait un bain de quelques minutes. Ce bain emplissait pour la journée le cabinet d'une moiteur, d'une odeur de chair fraîche et mouillée. Parfois, un flacon débouché, un savon resté hors de sa boîte, mettait une pointe plus violente dans cette langueur un peu fade. La jeune femme aimait à rester là jusqu'à midi, presque nue. La tante ronde, elle aussi, était nue. Cette baignoire rose, ces tables et ces cuvettes roses, cette mousseline du plafond et des murs, sous laquelle on croyait voir couler un sang rose, prenaient des rondeurs de chair, des rondeurs d'épaules et de seins. Et, selon l'heure de la journée, on eût dit la peau neigeuse d'un enfant ou la peau chaude d'une femme. C'était une grande nudité. Quand René sortait du bain, son corps blond n'ajoutait qu'un peu de rose à toute cette chair rose de la pièce. Ce fut Maxime qui déshabilla René. Il s'entendait à ces choses et ses mains agiles devinaient les épingles, courait autour de sa taille avec une science native. Il la décoiffa, lui enleva ses diamants, la recoiffa pour la nuit. Et comme il mêlait à son office de chambrière et de coiffeur des plaisanteries et des caresses, René riait d'un rire gras et étouffé, tandis que la soie de son corsage craquait et que ses jupes se dénouaient une à une. Quand elle se vit nue, elle souffla les bougies du candélabre, prit Maxime à bras le corps et l'emporta presque dans la chambre à coucher. Ce bal avait achevé de la griser. Dans sa fièvre, elle avait conscience de la journée passée la veille au coin de son feu, de cette journée de stupeur ardente, de rêves vagues et souriants. Elle entendait toujours dialoguer les voix sèches de Saccard et de Madame Sidonie, criant des chiffres avec des nazis mendiciers. C'était ces gens qui la sommaient, qui la poussaient au crime. Et même à cette heure, lorsqu'elle cherchait ses lèvres au fond du grand lit obscur, elle voyait toujours Maxime au milieu du brasier de la veille, la regardant avec des yeux qui la brûlaient. Le jeune homme ne se retira qu'à 6 heures du matin. Elle lui donna la clé de la petite porte du parc Monceau en lui faisant jurer de revenir tous les soirs. Le cabinet de toilette communiquait avec le salon Bouton d'Or par un escalier de service caché dans le mur et qui desservait toutes les pièces de la tourelle. Du salon, il était facile de passer dans la serre et de gagner le parc. En sortant au petit jour, par un brouillard épais, Maxime était un peu alourdi de sa bonne fortune. Il l'accepta d'ailleurs, avec ses complaisances d'être neutre. « Tant pis, » pensait-il. C'est elle qui le veut, après tout. Elle est diablement bien faite. Et elle avait raison, elle est 2 fois plus drôle au lit que Sylvia. Ils avaient glissé à l'inceste, dès le jour où Maxime, dans sa tunique râpée de collégien, s'était pendu au cou de René en chiffonnant son habit de garde française. Ce fut, dès lors, entre eux, une longue perversion de tous les instants. L'étrange éducation que la jeune femme donnait à l'enfant, les familiarités qui firent d'eux des camarades, plus tard l'audace rieuse de leur confidence, toute cette promiscuité périlleuse finit par les attacher d'un singulier lien, où les joies de l'amitié devenaient presque des satisfactions charnelles. Ils s'étaient livrés l'un à l'autre depuis des années. L'acte brutal ne fut que la crise aiguë de cette inconsciente maladie d'amour. Dans le monde affolé où ils vivaient, leur faute avait poussé comme sur un fumier gras de sucs équivoques. Elle s'était développée avec d'étranges raffinements au milieu de particulières conditions de débauche. Lorsque la grande calèche les emportait au bois et les roulait mollement le long des allées, se contentant des gravelures à l'oreille, cherchant dans leur enfance les polissonneries de l'instinct, ce n'était là qu'une déviation et qu'un contentement inavoué de leurs désirs. Ils se sentaient vaguement coupables, comme s'ils s'étaient effleurés d'un attouchement. Et même ce péché originel, cette langueur des conversations ordurières qui les lassait d'une fatigue voluptueuse, les chatouillaient plus doucement encore que des baisers nets et positifs. Leur camaraderie fut ainsi la marche lente de deux amoureux qui devaient fatalement un jour les mener au cabinet du Café Riche et au grand lit gris et rose de René. Quand ils se trouvèrent aux bras l'un de l'autre, ils n'eurent pas la secousse de la faute. On eût dit de vieux amants dont les baisers étaient des ressouvenirs. Et ils venaient de perdre tant d'heures dans un contact de tout leur être qu'ils parlaient malgré eux de ce passé plein de leurs tendresses ignorantes. « Tu te souviens le jour où je suis arrivée à Paris ?» disait Maxime. « Tu avais un drôle de costume. » Et avec mon doigt, j'ai tracé un angle sur ta poitrine. Je t'ai conseillé de te décolleter en pointe. Je sentais ta peau sous la chemisette et mon doigt enfonçait un peu. C'était très bon. René riait, le baisant, murmurant. Tu étais déjà joliment vicieux. Nous as-tu amusé chez Worms, tu te rappelles? Nous t'appelions notre petit homme. Moi, j'ai toujours cru que la grosse Suzanne se serait parfaitement laissée faire si la marquise ne l'avait pas surveillée avec des yeux furibonds. Ah oui, nous avons bien ri, murmurait le jeune homme. L'album de photographie, n'est-ce pas? Et tout le reste, nos courses dans Paris, nos goûters chez le pâtissier du boulevard. Tu sais, ces petits gâteaux aux fraises que tu adorais. Moi, je me souviendrai toujours de cet après-midi où tu m'as conté l'aventure d'Adeline au couvent quand elle écrivait des lettres à Suzanne et qu'elle signait comme un homme Arthur d'Espanay en lui proposant de l'enlever. Les amants s'égayaient encore de cette bonne histoire. Puis Maxime continuait de sa voix calme. Quand tu venais me chercher au collège dans ta voiture, nous devions être drôles tous les deux. Je disparaissais sous tes jupons tant j'étais petit. Oui, oui, balbutiait-elle, prise de frissons, attirant le jeune homme à elle. C'était très bon, comme tu dis. Nous nous aimions sans le savoir, n'est-ce pas? Moi, je l'ai su avant toi. L'autre jour, en revenant du bois, j'ai frôlé ta jambe et j'ai tressailli. Mais tu ne t'es aperçu de rien, hein? Tu ne songeais pas à moi. « Oh, si, répondit-il un peu embarrassé. Seulement, je ne savais pas, tu comprends? Je n'osais pas. » Il mentait. L'idée de posséder René ne lui était jamais nettement venue. Il l'avait effleurée de tout son vice sans la désirer réellement. Il était trop mou pour cet effort. Il accepta René parce qu'elle s'imposa à lui et qu'il glissa jusqu'à sa couche sans le vouloir, sans le prévoir. Quand il y eut roulé, il y resta, parce qu'il y faisait chaud, et qu'il s'oubliait au fond de tous les trous où il tombait. Dans les commencements, il goûta même des satisfactions d'amour-propre. C'était la première femme mariée qu'il possédait. Il ne songeait pas que le mari était son père. Mais Renée apportait dans la faute toutes ses ardeurs de cœur déclassé. Elle aussi avait glissé sur la pente. Seulement, elle n'avait pas roulé jusqu'au bout comme une chair inerte. Le désir s'était éveillé en elle, trop tard pour le combattre, lorsque la chute devenait fatale. Cette chute lui apparut brusquement comme une nécessité de son ennui, comme une jouissance rare et extrême qui seule pouvait réveiller ses sens lassés, son cœur meurtri. Ce fut pendant cette promenade d'automne, au crépuscule, quand le bois s'endormait, que l'idée vague de l'inceste lui vint, pareil à un chatouillement qui lui mit à fleur de peau un frisson inconnu. Et le soir, dans la demi-ivresse du dîner, sous le fouet de la jalousie, cette idée se précisa, se dressa ardemment devant elle, au milieu des flammes de la serre, en face de Maxime et de Louise. À cette heure, elle voulut le mal que personne ne commet, le mal qui allait emplir son existence vide et la mettre enfin dans cet enfer dont elle avait toujours peur, comme au temps où elle était petite fille. Puis, le lendemain, elle ne voulut plus, par un étrange sentiment de remords et de lassitude. Il lui semblait qu'elle avait déjà péché, que ce n'était pas si bon qu'elle pensait et que ce serait vraiment trop sale. La crise devait être fatale, venir d'elle-même, en dehors de ces deux êtres, de ces camarades qui étaient destinés à se tromper un beau soir, à s'accoupler en croyant se donner une poignée de main. Mais, après cette chute bête, elle se remit à son rêve d'un plaisir sans nom. Et alors, elle reprit Maxime dans ses bras, curieuse de lui, curieuse des joies cruelles d'un amour qu'elle regardait comme un crime. Sa volonté accepta l'inceste, l'exigea, entendit le goûter jusqu'au bout, jusqu'au remords, s'il venait jamais. Elle fut active, consciente. Elle aima avec son emportement de grande mondaine, ses préjugés inquiets de bourgeoise, tous ses combats, ses joies et ses dégoûts de femme qui se noient dans son propre mépris. Maxime revint chaque nuit. Il arrivait par le jardin vers 1 heure. Le plus souvent, Renée l'attendait dans la serre qu'il devait traverser pour gagner le petit salon. Ils étaient d'ailleurs d'une impudence parfaite, se cachant à peine, oubliant les précautions les plus classiques de l'adultère. Ce coin de l'hôtel, il est vrai, leur appartenait. Baptiste, le valet de chambre du mari, avait seul le droit d'y pénétrer. Et Baptiste, en homme grave, disparaissait aussitôt que son service était fini. Maxime prétendait même en riant qu'il se retirait pour écrire ses mémoires. Une nuit, cependant, comme il venait d'arriver, Renée le lui montra, qui traversait solennellement le salon, tenant un bougeoir à la main. Le grand valet, avec sa carrure de ministre, éclairée par la lumière jaune de la cire, avait, cette nuit-là, un visage plus correct et plus sévère encore que de coutume. En se penchant, les amants le virent souffler sa bougie et se diriger vers les écuries, où dormaient les chevaux et les palefreniers. « Il fait sa ronde, » dit Maxime. Renée resta frissonnante. Baptiste l'inquiétait d'ordinaire. Il lui arrivait de dire qu'il était le seul honnête homme de l'hôtel, avec sa froideur, ses regards clairs, qui ne s'arrêtait jamais aux épaules des femmes. Ils mirent alors quelque prudence à se voir. Ils fermaient les portes du petit salon et pouvaient ainsi jouir en toute tranquillité de ce salon, de la serre et de l'appartement de Renée. C'était tout un monde. Ils y goûtèrent, pendant les premiers mois, les joies les plus raffinées, les plus délicatement cherchées. Ils promenèrent leurs amours du grand lit gris et rose de la chambre à coucher, dans la nudité rose et blanche du cabinet de toilette et dans la symphonie en jaune mineur du petit salon. Chaque pièce, avec son odeur particulière, ses tentures, sa vie propre, leur donnait une tendresse différente, faisait de Renée une autre amoureuse. Elle fut délicate et jolie dans sa couche capitonnée de grande dame, au milieu de cette grande chambre tiède et aristocratique, où l'amour prenait un effacement de bon goût. Sous la tente couleur de chair, au milieu des parfums et de la langueur humide de la baignoire, elle se montra fille capricieuse et charnelle, se livrant au sortir du bain, et ce fut là que Maxime la préféra. Puis, en bas, au clair lever de soleil du petit salon, au milieu de cette aurore jaunissante qui dorait ses cheveux, elle devint déesse, avec sa tête de diane blonde, ses bras nus qui avaient des poses chastes, son corps pur, dont les attitudes sur les causeuses trouvaient des lignes nobles, d'une grâce antique. Mais il était un lieu dont Maxime avait presque peur, et où Renée ne l'entraînait que les jours mauvais, les jours où elle avait besoin d'une ivresse plus âcre. Alors, ils aimaient dans la serre. C'était là qu'ils goûtaient l'inceste. Une nuit, dans une heure d'angoisse, la jeune femme avait voulu que son amant allât chercher une des peaux d'ours noires. Puis il s'était couché sur cette fourrure d'encre au bord d'un bassin, dans la grande allée circulaire. Au dehors, il gelait terriblement par un clair de lune limpide. Maxime était arrivé, frissonnant, les oreilles et les doigts glacés. La serre se trouvait chauffée à un tel point qu'il eut une défaillance sur la peau de bête. Il entrait dans une flamme si lourde, au sortir des piqûres sèches du froid, qu'il éprouvait des cuissons, comme si on l'eût battu de verge. Quand il revint à lui, il vit Renée agenouillée, penchée, avec des yeux fixes, une attitude brutale qui lui fit peur. Les cheveux tombés, les épaules nues, elle s'appuyait sur ses poings, l'échine allongée, pareille à une grande chatte aux yeux phosphorescents. Le jeune homme, couché sur le dos, aperçut au-dessus des épaules de cette adorable bête amoureuse qui le regardait, le sphinx de marbre, dont la lune éclairait les cuisses luisantes. Renée avait la pose et le sourire du monstre à tête de femme, et dans ses jupons dénoués, elle semblait la sœur blanche de ce dieu noir. Maxime resta languissant. La chaleur était suffocante, une chaleur sombre qui ne tombait pas du ciel en pluie de feu, mais qui traînait à terre, ainsi qu'une exhalaison malsaine, et dont la buée montait, pareille à un nuage chargé d'orage. Une humidité chaude couvrait les amants d'une rosée, d'une sueur ardente. Longtemps ils demeurèrent sans geste et sans parole dans ce bain de flammes, Maxime terrassé et inerte, Renée frémissante sur ses poignets comme sur des jarrets souples et nerveux. Au dehors, par les petites vitres de la serre, on voyait des échappées du parc Monceau, des bouquets d'arbres aux fines découpures noires, des pelouses de gazon blanches comme des lacs glacés, tout un paysage mort, dont les délicatesses et les teintes claires et unies rappelaient des coins de gravures japonaises. Et ce bout de terre brûlante, cette couche enflammée où les amants s'allongeaient, bouillait étrangement au milieu de ce grand froid muet. Ils eurent une nuit d'amour fou. Renée était l'homme, la volonté passionnée et agissante. Maxime subissait. Cet être neutre, blond et joli, frappé dès l'enfance dans sa virilité, devenait, au bras curieux de la jeune femme, une grande fille, avec ses membres épilés, ses maigreurs gracieuses d'éphèbe romain. Il semblait né et grandi pour une perversion de la volupté. Renée jouissait de ses dominations. Elle pliait sous sa passion cette créature où le sexe hésitait toujours. C'était pour elle un continuel étonnement du désir, une surprise des sens, une bizarre sensation de malaise et de plaisir aigu. Elle ne savait plus. Elle revenait avec des doutes à sa peau fine, à son coupe-telet, à ses abandons et à ses évanouissements. Elle éprouva alors une heure de plénitude. Maxime, en lui révélant un frisson nouveau, compléta ses toilettes folles, son luxe prodigieux, sa vie à outrance. Il mit dans sa chair la note excessive qui chantait déjà autour d'elle. Il fut l'amant assorti aux modes et aux folies de l'époque. Ce joli jeune homme, dont les vestons montraient les formes grêles, cette fille manquée qui se promenait sur les boulevards, la raie au milieu de la tête, avec de petits rires et des sourires ennuyés, se trouva être, aux mains de René, une de ces débauches de décadence qui, à certaines heures, dans une nation pourrie, épuise une chair et détraque une intelligence. Et c'était surtout dans la serre que René était l'homme. La nuit ardente qu'ils y passèrent fut suivie de plusieurs autres. La serre aimait, brûlait avec eux. Dans l'air alourdi, dans la clarté blanchâtre de la lune, ils voyaient le monde étrange des plantes qui les entouraient se mouvoir confusément, échanger des étreintes. La peau d'ours noir tenait toute l'allée. À leurs pieds, le bassin fumait, plein d'un grouillement, d'un entrelacement épais de racines, tandis que l'étoile rose des nymphéas s'ouvrait à fleur d'eau, comme un corsage de vierges, et que les tornélias laissaient pendre leurs broussailles, pareilles à des chevelures de néréides pâmées. Puis, autour d'eux, les palmiers, les grands bambous de l'Inde se haussaient, allaient dans le cintre, où ils se penchaient et mêlaient leurs feuilles avec des attitudes chancelantes d'amants lassés. Plus bas, les fougères, les ptérides, les alsophyllas étaient comme des dames vertes avec leurs larges jupes garnies de volants réguliers qui, muettes et immobiles au bord de l'allée, attendaient l'amour. À côté d'elles, les feuilles torses, tachées de rouge, les bégonias et les feuilles blanches en fer de lance, des caladiums, mettaient une suite vague de meurtrissures et de pâleurs que les amants ne s'expliquaient pas, et où ils retrouvaient parfois des rondeurs de hanches et de genoux, vautrées à terre, sous la brutalité de caresses sanglantes. Et les bananiers, pliant sous les grappes de leurs fruits, leur parlaient des fertilités grasses du sol, pendant que les euphorbes d'Abyssinie, dont ils entrevoyaient dans l'ombre les cierges épineux, contrefaits, pleins de bosses honteuses, leur semblaient suer la sève, le flux débordant de cette génération de flammes. Mais, à mesure que leurs regards s'enfonçaient dans les coins de la serre, l'obscurité s'emplissait d'une débauche de feuilles et de tiges plus furieuses. Ils ne distinguaient plus sur les gradins les marantas douces comme du velours, les gloxinias aux cloches violettes, les dracénas semblables à des lames de vieilles laques vernies. C'était une ronde d'herbes vivantes qui se poursuivait d'une tendresse inassouvie. Aux quatre angles, à l'endroit où des rideaux de lianes ménageaient des berceaux, leurs rêves charnels s'affolaient encore. Et léger souple des vanilles, des coques du levant, des kispalus, des bohinias, étaient les bras interminables d'amoureux qu'on ne voyait pas, et qui allongeaient éperdument leur étreinte pour amener à eux toutes les joies éparses. Ces bras, sans fin, pendaient de lassitude, se nouaient dans un spasme d'amour, se cherchaient, s'enroulaient, comme pour le rut d'une foule. C'était le rut immense de la serre, de ce coin de forêt vierge où flambaient les verdures et les floraisons des tropiques. Maxime et René, les sens faussés, se sentaient emportés dans ces noces puissantes de la terre. Le sol, à travers la peau d'ours, leur brûlait le dos, et des hautes palmes tombaient sur eux des gouttes de chaleur. La sève qui montait au flanc des arbres les pénétrait, eux aussi, leur donnait des désirs fous de croissance immédiate, de reproduction gigantesque. ils entraient dans le rut de la serre. C'est alors, au milieu de la lueur pâle, que des visions les hébétaient, des cauchemars dans lesquels ils assistaient longuement aux amours des palmiers et des fougères. Les feuillages prenaient des apparences confuses et équivoques, que leurs désirs fixaient en images sensuelles. Des murmures, des chuchotements leur venaient des massifs, voix pâmées, soupirs d'extase, cris étouffés de douleur, rires lointains, tout ce que leur propre baiser avait de bavard et que l'écho leur renvoyait. Parfois, ils se croyaient secoués par un tremblement du sol, comme si la terre elle-même, dans une crise d'assouvissement, eût éclaté en sanglots voluptueux. S'ils avaient fermé les yeux, si la chaleur suffocante et la lumière pâle n'avaient pas mis en eux une dépravation de tous les sens, les odeurs eussent suffi à les jeter dans un éréthisme nerveux extraordinaire. Le bassin les mouillait d'une senteur âcre, profonde, où passaient les mille parfums des fleurs et des verdures. Par instant, la vanille chantait avec des roucoulements de ramiers. Puis arrivaient les notes rudes des stanopéas, dont les bouches tigrées ont une haleine forte et amère de convalescent. Les orchidées, dans leurs corbeilles que retenaient des chaînettes, exhalaient leur souffle, semblables à des encensoirs vivants. Mais l'odeur qui dominait, l'odeur où se fondaient tous ces vagues soupirs, c'était une odeur humaine, une odeur d'amour que Maxime reconnaissait quand il baisait la nuque de René, quand il enfouissait sa tête au milieu de ses cheveux dénoués. Et il restait ivre de cette odeur de femme amoureuse qui traînait dans la serre, comme dans une alcôve où la terre enfantait. D'habitude, les amants se couchaient sous le tanguin de Madagascar, sous cet arbuste empoisonné dont la jeune femme avait mordu une feuille. Autour d'eux, des blancheurs de stature riaient en regardant l'accouplement énorme des verdures. La lune, qui tournait, déplaçait les groupes, animait le drame de sa lumière changeante. Et ils étaient à mille lieues de Paris, en dehors de la vie facile du bois et des salons officiels, dans le coin d'une forêt de l'Inde, de quelque temple monstrueux, dont le sphinx de marbre noir devenait le dieu. Ils se sentaient roulés au crime, à l'amour maudit, à une tendresse de bête farouche. Tout ce pullulement qui les entourait, ce grouillement sourd du bassin, cette impudicité nue des feuillages, les jetait en plein enfer dantesque de la passion. C'était alors, au fond de cette cage de verre, toute bouillante des flammes de l'été, perdue dans le fond clair de décembre, qu'il goûtait l'inceste, comme le fruit criminel d'une terre trop chauffée, avec la peur sourde de leur couche terrifiante. Et, au milieu de la peau noire, le corps de René blanchissait, dans sa pose de grande chatte accroupie, l'échine allongée, les poignets tendus, comme des jarrets souples et nerveux. Elle était toute gonflée de volupté, et les lignes claires de ses épaules et de ses reins se détachaient avec des sécheresses félines sur la tache d'encre dont la fourrure noircissait le sable jaune de l'allée. Elle guettait Maxime, cette proie renversée sous elle, qui s'abandonnait, qu'elle possédait tout entière. Et, de temps à autre, elle se penchait brusquement, elle le baisait de sa bouche irritée. Sa bouche s'ouvrait alors avec l'éclat avide et saignant de l'hibiscus de la Chine, dont la nappe couvrait le flanc de l'autel. Elle n'était plus qu'une fille brûlante de la serre. Ses baisers fleurissaient et se fanaient, comme les fleurs rouges de la grande mauve, qui durent à peine quelques heures, et qui renaissent sans cesse, pareilles aux lèvres meurtries et insatiables d'une messaline géante.